À voix nue. Cette semaine, enregistrée en 1996, la rencontre entre Claude Kiègemann et Claire Bretéché, récemment disparue.
Claire Bretéché, nous avons parlé hier d'Agrippine et les Inclus, votre dernier album. Nous sommes revenus aussi sur Thérèse d'Avila, sur un certain nombre d'autres sujets des bandes dessinées. Quand vous faites une bande dessinée, quel est le but? Est-ce que vous avez aussi envie de faire rire?
Non, j'ai envie de que ça fasse une histoire qui se tienne debout et qu'on ait envie de lire. Évidemment, si on trouve ça rigolo, c'est mieux.
Mais est-ce que vous aimez rire vous-même?
Bien sûr, qui n'aime pas rire?
Est-ce que quelquefois, justement, quand vous travaillez, vous vous mettez à rire de ce que vous écrivez?
Oui, ça m'arrive, oui, ça m'arrive. Oui. Quitte à pleurer le lendemain en voyant ce que c'était, mais quelquefois, ça me fait rire.
Quel est l'élément essentiel de cette forme de littérature? C'est la critique sociale, c'est la moquerie, c'est la méchanceté, c'est la férocité, c'est la cruauté.
Ben, on part pas. Moi, je commence pas à travailler en me disant faut que je fasse ci, ça ou ça ou ça. C'est l'analyse post-ouvrage. Mais quand on s'y met, moi, tout ce que je cherche à faire, c'est à faire une histoire qui tienne debout, qui soit un peu où il y ait des éléments tordus qui fassent que ça tourne un peu. Quelque chose en ridicule, et puis voilà, que la situation soit bien posée et qu'elle tourne à la fin d'une façon qui la fasse, qui l'arrête intelligemment.
Alors vous avez dit quelque chose qui fasse apparaître le ridicule.
De préférence.
Donc si ça veut dire que le ridicule, c'est ce qui sous-tend la bande dessinée. Enfin, c'est votre travail, je veux dire. Est-ce que vous cherchez justement le ridicule des personnages, le ridicule des situations?
Je cherche des contradictions qui prêtent à sourire ou des situations un peu grotesques ou enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est enfin vous avez bien compris.
Vous avez un esprit critique particulier.
Ça fait prétentieux de dire. J'ai un esprit critique, j'ai en tout cas un esprit de critique inné, parce que même étant gosse, j'étais comme... C'est vrai qu'il y a une façon de déformer un peu ce qu'on voit, ou de le reformer, qui est particulier. Enfin, je sais que dans ma famille, il y a ça. Alors, oui, je dois avoir un petit peu ça, mais j'ai connu des gens qui l'avaient beaucoup plus que moi, et qui n'étaient pas capables de le retraduire autrement qu'en parole. Enfin, c'est très bizarre. Par exemple... L'exemple qu'on donne tout le temps, mais qui existe, c'est la... On voit un camion qui tire un vélo. On voit jamais plus ça, mais autrefois, on voyait un camion qui tire un vélo dans une côte. Et si vous voyez les choses normalement, vous dites, tiens, ce vélo s'accroche à ce camion pour se faire tirer. Et si vous le voyez de travers, vous dites, le vélo est en train de pousser le camion. Bon, bah, c'est... Voilà. On a ou on n'a pas cette façon de voir.
Alors, cette façon de voir que vous avez dans la bande dessinée, enfin, dans votre travail, est-ce que vous l'avez justement dans la vie autour de vous, avec vos belles-filles, avec votre compagnon, avec votre fils? Est-ce que...
Sans doute. Sans doute, mais c'est à eux qu'il faudrait le demander. Je ne me rends pas vraiment compte.
On parlait tout à l'heure un peu du rire, et vous me disiez qui n'a pas envie de rire. Quel genre de rire vous cherchez vous-même Qu'est-ce qui vous fait rire?
C'est être surprise. Ce qui fait rire, c'est le fait qu'une chose ne soit pas expliquée et attendue pendant 10 minutes avant d'arriver. Parce que vraiment, la plupart des gars qu'on voit au cinéma, on les attend. Ils ont déjà été préparés et prédigérés. C'est extrêmement fatigant.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez que la bande dessinée a trouvé de nouvelles sources, qu'elle se développe bien, ou que justement elle est arrivée à un carrefour? Comment est-ce que vous voyez tout ce mouvement-là et toute l'évolution de...
Je ne suis pas spécialiste, hein, je ne connais pas très très bien la question, mais enfin... régulièrement, je vais dans une librairie spécialisée quand il y a une place de parking devant, et je regarde ce qui se passe et je demande aux vendeurs, qui sont souvent très 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 passionnés. C'est d'ailleurs très réconfortant de discuter avec les vendeurs, parce que ça vous requinque un peu. Et moi, ce que je trouve, c'est que bon, comme il n'y a plus de journaux, je vous ai expliqué, les gens sont obligés de faire tout de suite d'auteurs des albums. Et ça, c'est vraiment tragique pour eux. Parce qu'ils n'ont pas le temps, de se faire. Il faut qu'ils sortent un album tout de suite qui est supposé être un truc à peu près abouti. Bon, peu importe. Mais ce que je remarque surtout, c'est que maintenant, les jeunes gens qui veulent faire de la BD, en fait, ils ont surtout envie de faire du graphisme. C'est-à-dire que l'histoire ne les intéresse pas, ne leur paraît pas absolument indispensable. Et comme il n'y a pas tellement de débouchés pour le graphisme, que l'illustration n'a plus beaucoup, que c'est surtout de la photo, etc., encore qu'il y a une espèce de faible petit retour au trait, mais pas tellement, ils font du graphisme case par case, ou alors des grandes pages, de dessins qui n'ont pas de raison d'être en livre, parce que ça se lit pas. Ça a des raisons d'être exposé dans une galerie ou montré d'une autre façon, mais comme ils n'ont pas de façon de le montrer, ils croient faire de la BD. Ça n'en est pas, puisque ça ne se lit pas. Et donc, puisque ça ne se lit pas, ça ne s'achète pas. Donc, ils crèvent la dalle.
Mais alors, pourtant, il y a des festivals d'Angoulême, de la BD, qui est un événement...
Oui, enfin, ça, c'est alors, un truc récupéré, qui marche, commercial, etc.
Veut dire que c'est une manière de commémorer la BD qui est en train de mourir. Enfin, je veux dire, c'est...
Mais non, ça marche très bien. Il y a une BD qui marche très bien. On prétend qu'il y a eu un trou terrible parce que la BD n'intéressait plus. C'est vrai qu'il y a eu un moment de snobisme, etc., des intellos, mais qui est complètement passé. Mais la BD continue à assez bien marcher. Mais je parle des gens nouveaux qui essaient de faire de la BD, qui sont rebutés par l'aspect répétitif et scolaire de la BD et qui veulent s'exprimer en faisant du graphisme. C'est ça que je parle. D'ailleurs, ils font ce qu'on appelle des graphzines maintenant. Graphzine. Avant, on disait des fanzines. Avant, on disait des magazines. Après, c'était des fanzines qui étaient des magazines de fans. Et maintenant, ça s'appelle des graphzines. C'est au moins honnête, c'est-à-dire ça explique que c'est du graphisme uniquement et que ça ne raconte pas d'histoire.
Et les dessinateurs qui ne font pas vraiment de la BD, mais qui sont, je pense, aux dessinateurs, aux dessins politiques, ça, vous les regardez, ça vous intéresse
A priori, non.
Parce que ça ne vous intéresse pas d'en faire, mais est-ce que ça vous intéresse de voir la manière dont ils évoluent, dont ils travaillent?
Je regarde dans Le Canard les dessins de... Il y a pas mal de dessinateurs qui me font rire dans Le Canard. Mais notamment Pétillon, que j'adore. Alors, c'est vraiment insensé ce qui me fait rire, parce que c'est très bête. Mais justement, c'est pas bête du tout, mais ça a l'air bête. Et ça, c'est parce que c'est tellement décalé que, même parlant de l'actualité politique, ça me fait rire. Il faut que ce soit vraiment décalé.
Mais c'est ça, peut-être, un des éléments du rire, c'est le décalage.
Naturellement.
Et donc, à part Pétillon, c'est ça comme ça que vous l'appelez, dans Le Canard
Pétillon,
enchaîné.
C'est un exemple, hein, parce que c'est vrai que c'est à peu près le seul qui me fasse rire. Lou me fait souvent rire aussi. Je ne sais plus dans quoi il dessine dans l'événement. Bon, il dessine un peu partout, Lou. Il fait des trucs vraiment, avec un but de temps en temps, des très très bons dessins.
Est-ce que vous connaissez justement les nouveaux venus, les tout nouveaux venus? Est-ce qu'il y en a beaucoup?
De connus, non. Il faut être déjà un peu blanchi sous le harnais pour être connu. Vous savez, c'est long, hein. Ça se fait pas du jour au lendemain.
Je crois que vous faites aussi de la publicité, du dessin publicitaire.
Ah, j'en fais plus, oui.
Et ça, c'est intéressant. Enfin, est-ce que c'est est-ce que quand vous faites de la pub, vous faites quand même de la BD
Ça dépend ce qu'on me demande. Oui. On peut me demander de faire une BD publicitaire ou de faire juste une accroche ou juste un dessin. Il peut y avoir n'importe quoi.
Et ça, c'est un travail très différent. C'est une approche.
C'est rigoureusement la même chose, mais il y a des règles. Faut illustrer une idée ou c'est un sujet imposé.
Vous aimez ça, faire la pub?
C'est tellement, tellement peu fatigant. Par rapport à la BD, c'est un tel repos. Oui, j'aime bien, oui.
Quand on lit une bande dessinée, le dessin est essentiel dans la bande dessinée. Et le dessin, dans la bande dessinée, ce n'est pas n'importe quel dessin, me semble-t-il.
On ne s'attache pas d'abord à l'histoire, parce que si le dessin ne vous plaît pas, vous ne lisez pas l'histoire. C'est la première chose qu'on voit quand même dans une BD, c'est le dessin. Et alors, c'est pas facile d'analyser un dessin. D'ailleurs, je sais même pas si c'est très analysable, complètement analysable, mais la plupart des gens ne sont incapables de le faire, mais ils sentent très très violemment un dessin. Et si le dessin leur plaît, il y a des chances qu'ils commencent à lire l'histoire. Si le dessin ne leur plaît pas, il n'y a aucune chance qu'ils ne commencent jamais à lire l'histoire, c'est sûr. Donc le dessin est quand même assez primordial. Et puis après, savoir si c'est un bon ou un mauvais dessin, ça c'est... C'est, d'abord, c'est subjectif, et puis ce que ça a d'objectif, c'est difficile à expliquer, parce que ça tient au trait, ça tient à l'expression, ça tient à l'organisation dans la page, ça tient à des tas de choses. Et ce qu'on reproche souvent au dessin de BD, c'est d'être tellement scolaire et répétitif que ça mérite même pas de s'appeler du dessin. Et puis en plus, c'est répétitif, en ce sens qu'il faut que les personnages soient très facilement reconnaissables, donc on ne peut pas les faire varier. Donc si on les fait varier, c'est très, très, très lentement. Et ça, la variation d'un personnage, très peu de gens y sont sensibles. Très peu de gens sont sensibles à l'évolution d'un dessin sur plusieurs albums. Enfin, c'est une préoccupation de spécialistes, d'ailleurs, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour le lecteur. Mais quelquefois, on s'aperçoit avec stupeur, quelqu'un vous dit, vous faites quelque chose que vous ne faisiez pas avant, il y a quelque chose de changé, etc. Alors, cette espèce de... Il y a des gens qui pigent très bien tout, mais ils sont rarissimes, mais... Quand quelqu'un qui n'est pas censé s'y connaître pige un petit truc comme ça, note une petite recherche, un détail qu'on pensait passer inaperçu, c'est vraiment agréable. Mais moi, un jour, on m'a dit un truc formidable. Je faisais une signature à Nantes et un type m'a dit, mais très gentiment, pas du tout agressivement, il voulait faire un compliment, il m'a dit, c'est vraiment formidable de réussir en faisant du dessin, mais alors, quand on dessine comme vous, c'est encore mieux. Encore plus fort. Avec ce genre de... Ça, je ne me rappelle plus exactement, mais ça voulait dire en dessinant aussi mal, c'est encore plus fort. Je suis très flattée.
Mais est-ce que vous avez évolué beaucoup dans le dessin vous-même?
Moi, je trouve.
C'est le souci du détail, c'est le souci des gestes, des expressions
Le but, enfin, en BD, ce qui est important, c'est d'avoir le maximum d'expression avec le minimum de moyens. Mais alors, évidemment, c'est contradictoire avec le fait qu'on rajoute de plus en plus de personnages, de plus en plus de mouvements ou de plus en plus de décors. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec la quantité de dessins. Ça a à voir avec la lisibilité du dessin. Vous pouvez avoir un dessin qui renferme beaucoup d'éléments et qui soit très lisible. Ou un dessin sans éléments, avec très peu d'éléments et qui soit illisible. Ça n'a rien à voir. Et en plus, le trait peut être comme ci ou comme ça. Il y a des traits extrêmement pauvres qu'on peut faire avec une pointe feutre qui ne varie jamais, puis il y a des traits beaucoup plus riches, nuancés, qui sont sensibles à l'accident de la plume, etc. Enfin bon, et ça c'est un plaisir solitaire. Et quelquefois on s'aperçoit qu'il est partagé par un minimum de gens, mais qu'il est quand même partagé, alors évidemment c'est très agréable.
Est-ce que le dessin noir et le dessin avec de la couleur, c'est pour celui qui le fait une grande différence? Est-ce que ça gagne en signification? On met de la couleur sur les BD parce que c'est la mode, parce qu'on en a besoin, parce qu'il y a une évolution. Enfin, quand vous faites, vous, un dessin noir et blanc, pourquoi est-ce que vous le faites noir et blanc et pourquoi est-ce que vous le faites avec de la couleur? Est-ce que c'est à cause du sujet?
C'est extrêmement simple, c'est que quand l'Obs est passé en couleur, j'étais obligée de faire des pages en couleur. Mais de toute façon, on considère que quand on fait des choses pour les enfants, et au départ la BD pour les enfants, il faut que ça ait de la couleur, parce que les enfants sont sensibles à la couleur. Mais ça permet, maintenant que j'ai... Bon, je sais pas.
Non, mais qu'est-ce que vous alliez dire?
J'allais dire, maintenant que je fais de la couleur, je m'en passerai difficilement. Au moment où je le disais, je pensais que c'était pas vrai. Ça dépend. Si on le conçoit pour de la couleur, on peut penser à l'utilisation de la couleur qu'on fera après le dessin, pour préciser certaines choses, mais si on sait qu'on n'aura pas de couleur, on les précise avant. Bon, je ne sais pas comment vous dire. Par exemple, vous faites un fond un peu brouillé et le personnage sur le fond brouillé. Si vous savez que le personnage va être en jaune vif, le fond peut rester un peu brouillé. Si vous le faites gris, ça ressort. Mais si vous n'avez pas de couleur, il faut que le fond soit moins brouillé.
Et comment est-ce qu'on fait, par le dessin, avancer une histoire, justement?
Par l'expression et les mouvements des personnages. C'est-à-dire que vous pouvez traduire les états d'âme d'un personnage par la façon dont il se tient, déjà. Il y a une façon de se tenir embarrassé, il y a une façon de se tenir désinvolte, il y a une façon agressive, il y a une façon coincée, rien que par les attitudes, sans parler même de l'expression du visage qui est toujours très sommaire.
Mais oui, mais le visage tourne, on le voit à droite, on le voit derrière, on le voit à gauche, et ça entraîne le mouvement du corps d'ailleurs.
Oui, tout s'entraîne. Ouais. Étant donné que ce qui arrive dans la page, enfin dans l'histoire, mais dans la page c'est plus vite compréhensible, ce qui arrive au personnage retentit sur sa façon. Enfin, je suis en train de me répéter, mais enfin, bref, ça fait partie, ça. La façon, sa façon de bouger à la fille, ça fait absolument partie du récit.
Vous servez de crayon ou vous servez de pinceau, de porte-plume ?
Moi, je me sers des choses, des instruments les plus archaïques qui soient. Et j'essaie de, mais je suis probablement trop vieille. Encore que c'est une question de disposition. J'essaie de je suis beaucoup intéressée au traitement par ordinateur, évidemment, parce que j'ai des amis qui travaillent à l'ordinateur et pourquoi pas ? C'est une bonne formule, quand on sait s'en servir, c'est un bon instrument, mais le problème d'abord c'est que c'est pas le même geste du tout. Alors on a le programme artiste par exemple, vous savez, qui permet d'utiliser tous les instruments possibles, vous choisissez votre pointe, l'épaisseur du trait, la variation du trait, enfin bon, c'est quand même incroyable ces programmes, et puis vous faites votre dessin sur l'écran, mais en regardant l'écran. Alors en fait, l'accident, si vous choisissez un instrument qui crée un accident de trait, ça reste quand même un accident programmé, alors que votre trait à vous, l'accident est programmé par vous jusqu'à un certain point, mais il y a toujours un accident supplémentaire qui intervient. Oui. Et s'il n'y a pas ça, l'intérêt de faire un trait devient beaucoup moindre, à mon avis. Alors peut-être c'est parce que je suis trop vieille pour maîtriser ça que je dis ça, mais j'ai des doutes, parce que j'ai bien fait le tour de la question et je vois pas du tout en BD à quoi ça sert de travailler en ordinateur. D'autant qu'il y a tellement de possibilités. La BD, c'est un moyen d'expression simplissime. Et si on complique trop la chose, on détériore la qualité du... la simplicité de cette expression-là. Par exemple, j'ai un copain qui fait des couleurs à l'écran. Et alors, il met un spot dans un coin et il travaille ses couleurs en fonction du spot. C'est-à-dire qu'en manipulant, bon, mettons qu'il fasse un gris, hein, oui, uniforme, il place un spot sur l'écran. Hein. Et puis, la lumière venant d'ici, ces personnages sont éclairés d'une certaine façon. Et puis, il s'amuse comme ça à chaque case. Et ça fait un truc complètement, un embrouillamini infernal, qui fait ressortir une espèce de souci, de détail excessif par rapport à l'expression, qui fait qu'on ne peut plus lire l'histoire. C'est complètement contradictoire avec
ça. Et il continue quand même.
Mais oui, parce qu'il ne s'en rend pas compte. Par contre, ses lecteurs s'en rendent vachement compte.
À partir du moment où il y a un média, enfin un intermédiaire, parce que l'ordinateur quand même joue comme un intermédiaire.
Comme un instrument.
Comme un instrument.
Pas mais... comme un intermédiaire.
Oui, mais c'est-à-dire que... le contact du crayon ou du pinceau n'est sûrement pas le même que celui de l'ordinateur.
Mais c'est ce que je vous dis, il n'y a pas la jouissance qui n'arrive pas toujours, évidemment, mais qui arrive quand même de temps en temps, il n'y a pas la jouissance du trait. Alors, ça paraît pompeux, mais il y a quand même une petite aventure quand on fait un trait. La façon dont ça griffe le papier, on devient amoureux de ça quand c'est votre boulot. L'intérêt du travail, c'est ça, c'est énormément ça.
Le plaisir, le plaisir direct, comme ça.
Même quand il n'y a pas de plaisir, au moins la sensation, la sensation. Et quand on a une plume qui accroche d'une certaine façon, bon, elle peut accrocher d'une façon à tout bousiller, mais si elle est à peu près convenablement drivée, la façon dont ça accroche sert le projet du trait. Enfin, ça paraît peut-être un peu plein de componctions, mais j'essaie d'expliquer.
Et là, en ce moment, est-ce que vous avez en tête déjà des nouveaux personnages ou est-ce que vous allez continuer Agrippine,
Je crois que je continue. Je ne sais pas, parce que là, je ne sais pas quand je vais recommencer. J'espère pas trop vite, parce que je n'ai pas envie. Mais ça dépend, mes finances. Mais sinon, ce que j'aime bien faire après un album, c'est rien foutre. C'est-à-dire gratouiller chez moi... faire un peu de pastel, un peu de ci, un peu de ça, remettre, trier, classer, enfin ce genre de boulot qui sert pas à grand chose, mais qui donne une fausse impression d'activité. Ça, c'est assez agréable.
Et vous occupez aussi de la distribution de votre...
La diffusion, c'est compliqué, c'est vraiment un truc auquel je peux pas m'attaquer. C'est beaucoup trop, il faut beaucoup trop de personnel et... C'est une organisation commerciale. Moi, je m'occupe uniquement de l'impression. Je livre les exemplaires en palette sortant de l'imprimerie. Enfin, je fais livrer au diffuseur et le diffuseur, à partir de là, se débrouille. Alors moi, si vous voulez, je connais les représentants, je vais les voir, je fais un peu de... Je vais signer à droite, à gauche, en province, etc. Mais ça se borne à ça.
Et pour Agrippine, là, et les inclus, vous faites beaucoup en ce moment. Vous voyagez beaucoup à travers la France pour signer pour cet album. Enfin, et ça, c'est quelque chose... C'est une activité que vous aimez.
Moi, j'ai horreur de ça. Ce que j'aime, c'est rencontrer les gens qui travaillent... Les représentants, les vendeurs, ce que je vous disais, c'est agréable parce qu'ils connaissent bien leur boulot et ils aiment ça. Ça les excite, alors leur excitation vous stimule et ça fait une espèce de renvoi agréable. Ça, j'aime bien ça.
Et la rencontre avec les lecteurs, enfin, avec comment ça se passe? Est-ce que vous aimez ça?
Ça dépend. Oui.
Est-ce que vous savez parler, enfin
On n'a rien le temps de faire, parce qu'on signe, on dédicace. Alors, il faut faire un petit dessin, une signature, et puis il y a la queue. S'il n'y a pas la queue, c'est encore pire, évidemment. on n'a pas le temps d'avoir de contact. Vous avez un petit sourire. Et quelquefois, quelqu'un sort une phrase extrêmement réconfortante ou gratifiante. Mais... C'est quand même très mécanique.
Quelle influence a la mode sur vos personnages? Est-ce que vous-même, vous êtes très, très intéressé par la mode? Vous disiez adorer acheter des fringues,
enfin. J'adorais ça, autrefois, oui. Mais oui, j'adore tout ce qui... J'adore les mouvements, que ce soit de mode ou de pensée, ou de ce qu'il est, tout ce qui est dans l'air du temps, j'aime bien. Ce qui m'intéresse à la mode, c'est pas ce que font les couturiers, pourquoi pas d'ailleurs, mais c'est la mode de la rue, le prêt-à-porter. Et ce qui va prendre ou ce qui va pas prendre, ce que personne ne sait, parce que quand les fabricants de prêt-à-porter misent sur le jaune, c'est le vert qui marche, et ainsi de suite, donc ils sont obligés de renouveler leur stock à toute vitesse. Ça, c'est assez rigolo. Mais en fait, les enfants de 15-16 ans, dans leur majorité, sont pas très très branchés mode. Ils sont tous habillés pareil. Mais moi, j'adore ça. Alors, donc, je fais en sorte qu'Agrippine soit toujours habillée d'une façon insensée. Et parce qu'en plus, les mômes s'échangent leurs fringues tout le temps. On leur achète un vêtement et elle le prête immédiatement à la copine qui le prête à une autre copine et ainsi de suite. Et ça tourne. Et ça fait qu'on a l'impression quand même qu'ils sont, même si ce sont toujours à peu près les mêmes fringues, ce sont des fringues empruntées. Alors, en partant de cette idée, on peut l'habiller différemment absolument tout le temps sans qu'elle appartienne à une famille extrêmement richissime, etc.
Justement, ces disparités sociales disparaissent. Enfin, je veux dire, dans le vêtement aujourd'hui, tout le monde, comme vous le disiez, est habillé pareil.
Oui,
enfin,
oui,
on ne sait pas qui est qui.
Oui, c'est ça.
En tous les cas, au lycée ou à l'école. Alors, Agrippine, elle est habillée comment? Elle monte son nombril.
Eh oui, mais en ce moment, c'est la mode. C'est encore la mode des petits pulls courts. Alors donc, c'est plausible. Mais si vraiment la mode des pulls courts passe, je ne la ferai plus montrer son nombril, c'est sûr.
Elle a des caleçons, elle a des...
Oh, elle a... Je ne sais plus, parce que ça change à peu près toutes les pages. Elle a tout. Je crois qu'elle a vraiment tout. Parce que c'est tellement rigolo. Et puis les superpositions, c'est rigolo à dessiner aussi.
Vous aimez dessiner les vêtements?
Oui, ouais. J'adore. J'ai essayé de faire du dessin de mode quand je suis arrivée. Mais en fait, je ne sais absolument pas inventer un vêtement. Mais j'aime bien...
Mais alors, la mère d'Agrippine, la grand-mère d'Agrippine, elle copie un peu la mode d'Agrippine, non? Il y a une espèce...
Oh non, elle ne copie pas la mode d'Agrippine, non. Elles suivent à peu près, mais en gros, le courant. C'est-à-dire que la grand-mère, par exemple, a des baskets, des Nike assez épaisses, mais voilà.
Un sac à dos comme Agrippine aussi.
Un sac à dos, oui. Mais les vieilles dans la rue ont des baskets et des sacs à dos. Hein.
Les attitudes aussi. Est-ce que vous trouvez justement que les jeunes filles... enfin, les adolescentes d'aujourd'hui ont des attitudes particulières? Est-ce que vos dessins, justement, vous observez la manière dont elles se vautrent sur des canapés, dont elles se tiennent
Non, mais elles se vautrent comme n'importe qui. Elles ont deux bras, deux jambes, les adultes aussi, qui se vautrent. Mais moi, je la fais bouger d'une façon que je n'observe pas. Hein. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont peut-être un peu plus à l'aise... avec leur corps que l'étaient les gens des générations précédentes, les filles en tout cas, et même les garçons. C'est-à-dire que maintenant, moi je vois les gamines qui viennent à la maison, elles n'hésitent pas à avoir le ventre en avant, les jambes écartées, enfin des attitudes complètement libres. Autrefois quand même, on n'avait pas le droit d'écarter les jambes. Je parle de générations, bien nombreuses générations en deçà. Maintenant, elles sont vautrées, elles sont absolument aucune pudeur.
Est-ce que vous avez l'impression que la séduction est une notion qui existe comme elle pouvait exister il y a 20 ou 30 ans? C'est-à-dire que, étant donné que filles et garçons vont en classe ensemble depuis des années maintenant, est-ce que... vous savez, on parlait toujours avant des filles coquettes, où on disait, moi je me souviens, on entendait toujours, tu n'es pas assez coquette, etc. Est-ce que ça existe encore dans le...
Mais vous savez, j'en sais rien, je ne les connais pas. Je trouve qu'il y a deux tendances. Je trouve que les garçons, et probablement les filles vis-à-vis des garçons, en tout cas les garçons vis-à-vis des filles, ont tendance à aimer un physique à la mode, qui à l'heure actuelle est le genre... grande mince, cheveux blonds et l'air un peu con. Moi, c'est ce que je vois qui marche le mieux. Parce qu'il y a on voit des très jolies filles qui répondent pas du tout à cette description et qui n'ont pas de mec. Non, des grandes brunes ravissantes et qui n'ont pas l'air un peu chlorotique avec les cheveux longs et qui sont seules. Il paraît, moi je connais quelqu'un qui est prof d'université, il paraît que c'est frappant de voir les couples se former en début d'année comme ça. Et des jolies brunes restées. Enfin, bon, c'est très curieux, mais il paraît que ça se vérifie. Et d'autre part, alors donc, c'est une espèce de côté coulé dans le moule, d'une certaine façon. Et d'une autre façon, il y a une recherche de l'étrangeté qui fait les couples mixtes, par exemple. C'est-à-dire que, ou bien on cherche quelqu'un de complètement dans le moule qu'on pré-moulé, ou bien on cherche quelqu'un de complètement différent. Alors, on va automatiquement avec quelqu'un qui n'est pas de sa race et de son origine, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant comme recherche. Et ça, c'est probablement dû un peu au fait que maintenant, les garçons et les filles sont mélangés. Avant, les garçons gardaient une espèce de mystère et vice-versa, parce que par manque de connaissances mutuelles. Et maintenant, ça se produit entre groupes sociaux ou groupes, quels qu'ils soient, ethniques, différents.
Fin de cette rencontre entre Claude Kegeman avec Claire Bretéché, enregistrée en 1996. À Voix Nue, réalisation Nicole Salerne, attachée de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À Voix Nue se réécoute et se podcast sur franceculture.fr.